Catherine le matin. Voici le Doc Mayou.
Bonjour, Docteur Mayou.
Catherine, Raphaël, Serge. Oui, l'étude est intéressante.
Ah oui?
Et ça se peut très bien, c'est très plausible. Parce que il y a deux facteurs principaux qui vont jouer. Mm-hmm. Les individus mariés probablement s'alimentent mieux. Donc, ont une meilleure santé que les divorcés et les veufs.
OK.
Il y a beaucoup de veufs et de divorcés qui se laissent aller sur le plan alimentaire. Deuxièmement, indéniablement, la prise de médicaments pour des maladies chroniques, pour traiter son diabète, son hypertension, son hypercholestérolémie, est beaucoup plus suivie lorsque les personnes vivent en couple.
Oui, OK. Ben, en fait, oui, vivre en couple, moi, c'était l'aspect du mariage, Dr. Mayou. Vivre en couple, oui, je suis convaincue que ça fait une différence, mais vivre en couple, marié ou pas marié...
Ou union de fait, ça n'a pas d'aspect. Aucun. Et ça aurait été intéressant, Raphaël, d'avoir toujours la différence entre les hommes et les femmes.
Oui, c'est sûr.
La différence de genre.
Oui.
On a tendance à l'ignorer dans toutes les études. Premier réflexe.
Oui.
Comparer homme-femme et comparer groupe d'âge.
Mais vous voyez, je vous ai devancé, Doc, parce que j'avais prévu ça ce matin. Donc, le risque de mourir d'une maladie coronarienne ou d'une maladie cardiovasculaire augmente de 43% pour les personnes non mariées, de 55% de mourir d'un AVC, et les résultats sont quasiment les mêmes chez les hommes et chez les femmes.
Ah oui?
Bon,
oui.
C'est parfait. Okay. Alors, effectivement, l'alimentation est le facteur premier. Deuxièmement, la fidélité au traitement. Alors, les divorcés, les veufs sont beaucoup plus infidèles à leur traitement. D'ailleurs, il y a des études récentes, de plus en plus on se penche là-dessus. Et saviez-vous qu'en psychiatrie, on établit maintenant à 85% le pourcentage de patients qui ne prennent pas rigoureusement leur traitement à des degrés différents.
Oui. OK.
Et seulement en psychiatrie. Alors, dans les autres sphères, c'est pareil. Les gens s'oublient leurs médicaments, les prennent n'importe comment. C'est fréquent.
Okay.
Surtout, alors, les pharmaciens distribuent des piluliers, des semeniers, et même là, la fidélité au traitement est pénible pour beaucoup de monde.
Bon.
Oui, et surtout lorsque vous n'avez pas de rappel, les personnes qui vivent seules ou qui sont perturbées, ils s'en foutent du traitement la plupart du temps.
Ben, ils s'en foutent. Puis, tu sais, quelqu'un qui prend beaucoup de pilules, Dr. Mayou, puis mettons qu'il commence à être confus, là, puis qu'il est seul à la maison, ça se peut-tu qu'il se mélange dans ses pilules aussi? Mm-hmm.
Oh, écoute, même sans être confus.
Ah oui, ben c'est ça, j'en doute pas. Quand on a une dizaine, quinzaine, il y en a que c'est ça, là, 10-15 pilules par jour. On va dire une affaire, t'es mieux de suivre tes choses.
Ensuite, les rendez-vous chez le médecin. Alors, diabète, hypertension, hypercholestérolémie, les personnes qui sont le moindrement perturbées, qui sont divorcées, qui s'ennuient, les veufs, vont probablement canceller beaucoup plus de rendez-vous médicaux.
Oui.
Alors, tout ça est vrai.
Ouais.
Non, c'est une...
Okay.
Merci, Raphaël. Belle étude.
Ben, beau signal. On trouvait ça drôle.
C'est M. Wong, en fait, je
pense. Non, mais au-delà de ça, c'est l'aspect du mariage. Mais là, Dr. Mayou vient de le préciser. Ça vient ajouter à ton étude. Dr. Mayou...
Non, mariage ou union de fait, là, je pense pas que ça change grand-chose. Oui.
Question pour...
Alors, j'ai entendu, Catherine, tout à l'heure, le cirque de Québec continue. Ils s'en vont où avec ça?
Là, vous faites référence
Catherine,
à quoi, là?
C'est gênant.
Je veux juste vous suivre, là.
Les avocats de la défense de Bissonnette.
Oui, OK, c'est là que je m'en allais. OK, Alexandre Bissonnette. Donc, Alexandre Bissonnette, je vous le rappelle, présentement, c'est la représentation sur sentence. Alors, ses avocats soutiennent qu'un, il est réhabilitable. La défense réclame une peine de 25 ans avec possibilité de réhabilitation. Eux disent qu'il n'est pas... qui n'a pas le profil qui correspond à ce qui avait été décidé en 2010, c'est-à-dire permettre aux tribunaux de condamner des meurtriers à des peines cumulatives, comme c'était le cas pour Justin Bourque du côté de Moncton. Il avait tué 3 policiers. Docteur Mayou, c'est tout le monde où la ligne est mince entre le réhabilitable et pas réhabilitable?
Ben voyons. Écoute, tout ça est basé sur à peu près rien. C'est n'importe quoi comme propos.
Ah oui?
Et j'ai l'impression, moi, que Bissonnette est beaucoup plus une marionnette du système judiciaire actuel qu'un individu qui a eu droit à voir respecter la loi, à se voir respecter. Écoute, c'est un individu qui a peut-être... Puis qu'il y a quelqu'un qui va prétendre que cet individu-là est en pleine possession de ses moyens au moment de la tuerie de la mosquée?
Ben, on
dirait... Deuxièmement, la couronne le voulait saint d'esprit. Pourquoi? pour ne pas qu'il soit déclaré non criminellement responsable des gestes qu'il a faits.
Ouais.
Ça aurait été quoi de la conséquence internationale, d'abord nationale et internationale, si on l'avait déclaré non criminellement responsable? Avez-vous pensé à ça?
Oui, vous avez raison. Alors,
c'est une joke. C'est une joke, ça, cette affaire-là.
Mais dans la...
Au lieu de l'examiner le lendemain du massacre, on l'a examiné sur le plan psychiatrique un an plus tard.
Mais ça, je peux pas croire. Mais ça, attendez, Dr Mayhew, là. Je pense qu'il a été évalué avant ça. Est-ce que je pense pas qu'il a été évalué seulement un an après. Là. Je peux pas croire, mais il me semble qu'il y a sûrement des psychiatres qui l'ont évalué avant, au tout début. C'est pas ça la procédure, normalement? On doit pas évaluer...
Non, il n'y a pas de procédure non. comme ça. C'est à la demande du juge,
ouais.
c'est à la demande de la couronne, et c'est à la ou c'est à la demande de la défense.
OK, mais ça, là, on, ce qu'on
les
faire...
trois peuvent demander.
Mm.
Maintenant, qui a demandé l'examen psychiatrique? La couronne? Non. Le juge? Non. La défense? Presque un an plus tard.
OK, mais on va vérifier. Raphaël, on va...
Ben, vérifier ça.
Oui, parce que je veux juste être sûr qu'on dise les bonnes choses. On va contacter nos journalistes de Québec. Là. Je pense que c'est Jonathan Bernard qui était beaucoup sur ce cas-là. Juste savoir si on l'a évalué rapidement. Parce que, Dr Mayhew, ma question était la suivante.
Le comportement en cours analysé par le juge.
Oui.
On lui donne quoi comme médication, Bissonnette? Est-ce que vous le savez?
Non, on le sait pas. C'est en fait.
Moi non plus.
Ben, c'est ça. Mais
puis là, il a la tête baissée. Il est-tu assommé par ses médicaments?
Ben, peut-être.
Hey, on laisse au juge en cours le soin d'interpréter le non-verbal des justiciables. Aïe, aïe!
Mais c'est ce que je disais, Maître Bernier, tout à l'heure. Premièrement,
pas votre meilleur, ça, là, matin, là.
Ben,
non, mais comme société, pas
oui,
toi,
oui.
là.
Non, j'ai compris.
Comme société, moi, je suis gêné. J'écoutais ça tout à l'heure. Puis là, il est rendu dans un trouble de personnalité.
Oui.
Il n'y a jamais personne qui a établi un lien entre la réhabilitation et le type de personnalité de quelqu'un,
bon ben.
Le type de trouble de personnalité, mais voyons, on s'en va où avec ça?
Bon, mais justement, moi, par rapport à ça, j'ai deux questions pour vous. Quand on dit...
Non, je suis ce matin parce que je vais être poli, je vais demeurer poli, mais c'est embarrassant.
Là, évidemment, vous ne l'avez pas évalué, Bissonnette, mais la plupart des psychiatres qui ont évalué Alexandre Bissonnette, sont quelques-uns, parlaient d'un profil de narcissique fragile. Ce qui veut dire, Dr Mayhew? Qu'est-ce qu'un narcissique fragile?
Ben non, un narcissique fragile, écoute, c'est plein, puis même chez les avocats.
Mais c'est quoi? Pouvez-vous nous expliquer?
Chez les médecins, c'est la place où on trouve le plus un narcissique, c'est policier, médecin, avocat.
Oui, mais c'est quoi un narcissique? Je veux qu'on revienne à la base.
C'est quelqu'un qui est plein de lui-même, un plein de soupe. Tu sais, quelqu'un qui est plein de lui-même. Je m'aime, puis la petite cour autour est à leur service. Ben oui. Les professionnels narcissiques... Il s'est plaint.
OK. Et d'autres questions?
Puis lorsqu'ils sont contrariés, ben, ils distribuent des baffes. Alors, ils vont sacrer une claque par la tête à leur conjointe ou à leurs enfants ou à leur adolescente. Ou...
OK. Mais donc, ça, c'est une personnalité. Quelqu'un qui a une personnalité narcissique, c'est un trouble de personnalité.
Ben, ça dépend.
Ah,
regarde, la différence entre la personnalité et le trouble de personnalité, c'est simplement l'intensité.
Okay.
Tu sais, d'être un petit peu plein de soi-même, c'est pas nécessairement ben dommageable pour la société. C'est pas mauvais. Ça amène certains individus à performer. Parce qu'ils s'aiment. Puis, tu sais, que ce soit chez des chanteurs, des avocats, puis ils font des effets de toche. Puis ils aiment ça. Tu comprends?
Oui, OK.
Ils aiment ça être regardés, puis à faire des déclarations, puis avoir les caméras sous le nez. Puis, alors, c'est pas mauvais. Ça devient un trouble lorsque c'est mal adaptatif ou que ça fait souffrir l'entourage.
OK. Mais autre question pour vous. Hier, ces avocats ont dit tous les troubles de personnalité se traitent. Est-ce que c'est vrai?
C'est pas vrai, jamais de la vie. Il n'y a personne qui va appuyer ça.
Non.
Les troubles de personnalité, vous naissez avec votre personnalité et vous allez mourir avec. Si vous avez des traits mal adaptatifs, c'est-à-dire que c'est un peu trop. Si vous êtes un peu trop dépendant, un peu trop têteux, ben ça pourrait vous poser des problèmes toute votre vie. Et c'est quoi le traitement pour ça? T'sais? Comment vous réussissez à amener quelqu'un, je caricature, là, qui est têteux, qui est dépendant, à être moins têteux?
Oui, mais Dr Mayhew, dans les troubles de personnalité les plus répandus, quels sont-ils?
Bien, vous avez la personnalité anxieuse.
Okay.
Alors, un anxieux, souvent, naît anxieux. On peut l'empirer, mais il va mourir anxieux. Les paranoïdes, les schizoïdes, narcissiques, dépendants.
OK.
Obsessifs, compulsifs. Alors, les infirmières obsessives compulsives vont performer à un très haut niveau dans les salles d'opération et les techniciens dans le laboratoire obsessives compulsives vont être des employés modèles, recherchés.
Ah oui?
Pourtant, ils ont un trouble de personnalité, on les recherche parce qu'ils ont le souci des microbes.
Okay.
Et il n'y a pas grand microbe qui va survivre avec une infirmière obsessive compulsive en salle d'opération. Il n'y aura pas beaucoup de contamination du champ opératoire, j'aime autant vous le dire. Puis elle va même rappeler à l'ordre le chirurgien.
OK, bien alors je vous repose la question différemment. Si ce ne sont pas tous les troubles de personnalité qui se traitent, quels sont les troubles de personnalité qui sont peut-être les plus faciles à traiter? Est-ce qu'il y en a?
Oh non.
Non?
Non. Ça dépend de l'intensité. Ça ne fonctionne pas comme ça.
Ça ne fonctionne pas, OK.
Non. Et les pires, les plus dangereux, il y a un trouble dont on ne parle pas, c'est la personnalité antisociale. C'est le criminel d'habitude. C'est celui qui aime dégainer, il aime sortir son couteau, puis il n'a pas trop de problèmes avec le fait de tuer. Alors, c'est un peu ceux-là que le système, dans la peur, avait voulu récupérer. Mais là, on embarque Bissonnette là-dedans. C'est une joke.
Mais dans la personnalité antisociale, est-ce qu'on met souvent là-dedans... Est-ce que les tueurs en série sont souvent des personnalités antisociales?
Oh, faut faire attention, parce que là, tu peux avoir des sadiques, mais des sadiques sexuels, là.
Ouais. OK.
Tout à fait. Alors, Maurice Boucher, notre fameux moineau national, est probablement affligé d'une personnalité de criminel. Alors, il a grandi, il a vécu, et il est incarcéré, puis il continue de manifester des traits antisociaux. Alors, personnalité antisociale et psychopathe, c'est synonyme.
Ouais.
Pas psychotique, là.
OK. OK. Personnalité, personnalité antisociale et psychopathe, c'est la même chose?
Ben oui.
OK. Ben non,
c'est l'individu qui... Oui. À ne pas confondre avec psychotique. C'est l'erreur la plus fréquente dans la collectivité, c'est de confondre un psychopathe avec un psychotique. Psychotique, c'est qu'il a perdu contact avec la réalité, malade psychiatrique.
Okay.
Psychopathe, c'est un criminel. Il est né bandit.
Ouais.
Il est né bandit, puis la personnalité antisociale commence à se manifester à l'âge de 9 ans par des petits feux, cruauté envers les animaux, cruauté envers les enfants et absence d'anxiété.
Mais attendez, là, on peut naître bandit? Je pensais qu'on devenait bandit, moi.
Ben non, Catherine. Ah bon. Deviens pas bandit qui veut, imagine-toi donc.
Ah bon.
À des degrés différents. Alors, il y a des petits bandits, puis il y a des grands bandits. Puis il y en a qui sont bandits avec la gonne, puis d'autres sont bandits avec la cravate. Mais ils sont bandits quand même, là. Ce sont des antisociaux.
OK. C'est intéressant. Vous voyez, je pensais que c'est mal. Je pensais pas qu'on pouvait... On avait ça en nous. En tout cas, une graine
ben
de bandit,
oui.
Là.
Oui. Ben okay. Oui.
Je pensais que c'est l'entourage qui influençait. La façon
non.
dont on est... Non? OK. Bon, ben parfait.
Non. Les études d'adoption danoises ont révélé clairement que le plus gros facteur pour le banditisme, c'était votre génétique. Autrement dit, lorsqu'un bandit s'accouple avec une criminelle, vous avez 85% des enfants vont être bandits.
Ah oui. Ben là,
La pénétration est très forte.
Ah oui, OK. Bon, mais j'en ai appris.
Même lorsque vous les faites adopter, les truands, les truands génétiques, lorsque vous les faites adopter, ça ne change rien.
Ah non. Donc, même si on trouve dans une bonne famille qui a rien de criminel, ça va quand même faire des criminels ou des bandits.
Te souviens-tu du pédiatre de Victoriaville qui avait été assassiné par son fils adopté? Vous souvenez-vous de ça? Sergei?
T'as un petit peu le nom. Moi, là, je peux pas vous dire que je m'en souviens là. Là.
Ouais,
Serge,
ça me semble que ça fait plusieurs années, ça. Hein?
Ouais, c'est...
Ben oui. Il y a 20 ans.
OK. Et c'est quoi le lien?
Il y a 20 ans, c'était un adopté.
Ouais.
Puis probablement que... Écoute, il avait rentré par le soupirail du sous-sol de la maison de ses parents pour aller voler, puis il avait tué son père à coup de pelle.
OK, puis il avait été adopté par ces gens-là.
Oh oui, c'était un adopté, puis probablement de famille, de génétique de félon. C'est-à-dire félon étant des criminels d'habitude.
Bon, ben merci.
Possiblement. En tout cas, ça fonctionne comme ça. Vous avez beau être des bons parents, si vous avez un enfant qui a de la graine de truand, je vous souhaite bonne chance.
Pas grand-chose à faire.
Alors, contrairement à ce qui est en train de se dire en cours, les troubles de personnalité et tous les psychothérapeutes, les psychanalystes savent ça. On ne prend pas en psychanalyse quelqu'un qui a un trouble de personnalité, un antisocial, ou par exemple un paranoïde. Ouais. Et c'est important de le dire, parce que je ne l'ai pas encore mentionné, mais un policier qui a une personnalité paranoïde, c'est excellent. Ça va faire un limier de très haut niveau.
Ah oui?
Ça peut vous faire, ben oui!
Ah bon?
Alors, oui. Le policier est constamment méfiant. Il est constamment sur ses gardes. Mais, c'est là où s'il développe un trouble de personnalité paranoïde, là, il se met à soupçonner tous ses collègues de l'espionner.
OK, ouais, c'est
alors,
ça.
Alors, c'est plus bon!
Non, non, mais c'est pour ça que je vous disais tantôt, la ligne peut être mince entre, OK, là, ça peut servir comme ça peut être drôlement dangereux, là.
Okay. Oui.
Ben, docteur Mayeux...
Alors, ça devient maladaptatif quand c'est trop marqué. Alors, un policier qui n'est pas paranoïde du tout, pas sûr qu'il va arrêter beaucoup de bandits.
Il y a ça. C'est un bon point. Hey, docteur Mayeux, on remet ça.
Alors, tout ça existe.
Ouais.
Et c'est fascinant.
Ouais,
c'est
bon
un
oui.
monde.
Ben oui, ben, visiblement.
Je considère que le peu qu'on connaît dans le comportement humain est littéralement massacré à Québec.
Ben, présentement, en tout cas...
C'est ça qui me désole.
Ouais, ben, je me fie sur vous là-dessus, là, c'est vous le spécialiste. Fait que, mais... Bon, ben, merci pour ces explications.
Ben, comme tu as pu remarquer, je pense qu'il n'y a pas grand spécialiste de la chose qui est invité. Là. on fait ça entre avocats et avec le système judiciaire. On a beaucoup de plaisir, on dit à peu près n'importe quoi.
Oui, ben, c'est ça qui est un peu inquiétant.
Tantôt. C'est un peu gênant, là.
Bon, alors merci de remettre les pendules à l'heure. On se retrouve demain matin.
Hey, oh, oui, hey, l'autre affaire,
oui.
il n'y a pas tué d'enfant, c'est un facteur atténuant.
Puis j'ai posé la question à Maître Bernier, il m'a dit que ben oui, ça pouvait jouer en sa faveur. On est-tu en train d'inventer?
Mais hein? Que de tuer un enfant serait beaucoup plus grave que de tuer une mère enceinte, une femme, un vieillard ou un homme adulte, un homme blanc adulte, hétéro.
Oui, ben c'est ça qui est particulier.
Mais c'est quoi cette affaire-là?
Ben, en fait, savez-vous quoi? On tombe dans les motifs. Vous regarderez les meurtres d'enfants, ça touche toujours plus les gens. Ça réagit toujours plus. On vient chercher le côté émotif là-dedans. Là.
Ben oui, mais il est où?
Mais un humain, c'est un humain.
La vie d'un enfant a plus de valeur que la vie d'un adolescent, d'un jeune adulte, d'une femme enceinte, d'une femme...
Une personne âgée.
Avec une belle carrière ou d'une personne âgée qui a mené une vie extraordinaire.
Ben, c'est ça.
Expliquez-moi ça, vous autres.
Mais pourtant, j'ouvrirais les lignes, puis je suis sûr que 90% des gens disent, ben oui, c'est bien pire un enfant. C'est émotif. Ça nous touche davantage quand c'est des enfants. Regardez toutes les fondations pour les enfants.
En tout cas, pas moi.
Non,
moi,
non, ben, je vous exclue de ça. Il faut s'arrêter.
Oui, excluez-moi, là, parce que je la comprends pas, celle-là.
Oui, oui, ben on aura l'occasion
vous
de s'en...
Vous attachez plus de valeur. Et soit dit en passant, peut-être profiter de l'occasion pour manifester la sale hypocrisie. Quand on considère que les enfants, l'âge maximal où ils se font le plus frapper, c'est entre 3 et 4 ans, si vous valorisez tant la vie des enfants, pourriez-vous arrêter de varger dessus de temps en temps?
Je pense que tout est dit. On va s'arrêter là pour ce matin.
J'en ai assez, là, t'es en train de me pomper.
Ah ben, j'ai rien à voir là-dedans. Vous vous pompez tout seul, c'est la beauté de la chose. Ben, repompez-vous demain à 7h10. Bonne journée, Dr. Mayeux. À demain.
Bye.
Voilà, Dr. Mayeux qu'on a encore jusqu'à vendredi de la semaine prochaine, tout juste avant le congé du 1er juillet.